podcast.com. Essaye ça.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Terrain Basique, le podcast sur Magic le plus québécois au monde entier, peut-être même dans l'univers. Je m'appelle Andy Jacques, le vrai Andy Jacques, en remplacement de Tommy Godette, qui est allé vivre des aventures conspirites. J'ai bien sûr avec moi notre grand, notre maître, notre sphinx à tous, Jason Keys. Comment ça va, Jason?
Hey, bien bonjour, ça va très bien. Écoute, de retour de vacances.
Ah, c'est vrai, hein? T'étais pas là la semaine passée.
Non, j'avais pris une semaine off, puis je me suis dit, quoi de mieux pour se reprendre que de se mettre à jour sur Moderne, c'est le format Moderne. Donc, on aurait invité Jean-François Régimbal de retour.
Bonjour Jean-François, salut. Comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Oui, ça va très bien. Alors, on parle aujourd'hui de Modern Horizon 2, si je ne me trompe.
Yes, on va refaire le tour là, de Modern, un peu des prédictions que j'avais faites il y a quelques mois. Puis on va voir où est rendue la méta compétitive là, de Magic.
D'accord. Bon, ben, excellent. On start ça. On a décidé collectivement de se mettre une petite trame sonore. Puis étant donné que Tommy n'est pas là, ben, on va mettre probablement un de ses jeux qu'il aime bien. Donc, on va mettre Shadowrun sur la Super NES, qui est un jeu RPG du même type de Forgotten Realms puis tout ça dans le temps. Donc, ça va être ça dans vos oreilles tout le long de l'épisode. Donc, on start.
Ils ont sorti un spoiler vraiment intéressant aujourd'hui, si je peux me permettre, Andy. Oui. Ils ont sorti un poster pour annoncer, on sait qu'on retourne sur Innistrad au mois de septembre, et Wizard of the Coast a révélé, je ne sais pas si vous le voyez sur mon écran en ce moment, notre épisode va être diffusé sur YouTube pour ceux qui veulent voir plus le visuel. C'est un poster qui annonce le Innistrad Midnight Hunt. Je voulais en parler, en prendre un petit 5 minutes pour en parler, parce que je pense qu'il y a des indices sur qu'est-ce qu'on va avoir dans ce set-là. On sait que ça va être basé autour des loups-garous, hein, les mécaniques de loup-garou qui flippait, était un des éléments centrales des vieux sets d'Innistrad. Il y en a déjà eu 5, je le rappelle, en 2011 et en 2016. Donc, c'est un élément qu'on sait déjà. On avait aussi un peu parlé la semaine passée dans notre épisode. L'aspect cependant que j'aimerais apporter votre attention, si on se souvient dans le dernier set de Eldritch Moon qui se passait sur Innistrad, Emrakul avait été emprisonné sur la lune d'Innistrad, le Gatewatch. Ça, c'était la carte Imprisoned in the Moon, où ce que le Gatewatch emprisonnait Emrakul, le gros Eldrazi, là, le plus fort des trois Eldrazi. Il l'emprisonnait sur la lune d'Innistrad pour ne plus qu'il nuit. Donc, je pense, là, de ce qu'on voit, ce poster-là, on voit les phases de la lune, chacune des phases de la lune. Dans le fond, ça fait référence au loup-garou là, qui change selon les phases de la lune. Mais aussi, on voit l'espèce de gros compas là, au centre du poster. Ça rappelle un peu la forme là, d'Emrakul avec, vous voyez, un œil au centre. Bien sûr, c'est très stylistique, très, comment on dit ça, là, métaphorique. Il y a aussi un cadran avec 13 sections. Donc, ça fait référence beaucoup. On avait parlé la semaine passée. Là, il y a comme un thème. Un thème du chiffre 13 dans le prochain set d'Innistrad. Un autre élément que je me suis rendu compte, il y a le Planeswalker Renin 6 qui revient dans le prochain set d'Innistrad. Donc, Renin 6, on se rappelle, c'est un Planeswalker là, qui bouge beaucoup le format moderne en ce moment, là, un rouge, un vert. Vous l'avez sûrement, si vous avez joué le format moderne, vous avez rencontré ce Planeswalker-là souvent. C'est un dryade à rattacher à un arbre qui a le pouvoir de Planeswalker entre les plans. Donc, Ren and Six. Six étant le Ren, c'est le nom du Planeswalker. Six, c'est son sixième arbre. Pour Innistrad, on va avoir droit à Ren and Seven. Dans le fond, c'est Ren qui se pointe sur le plan de Innistrad et s'attache à son septième arbre.
Il a perdu son rouge, hein?
Oui. Andy, rapidement, je ne sais pas si tu es bon en mathématiques, mais 7 plus 6, ça fait combien?
Ça fait... enlève 3, rajoute 4, 13.
13, eh oui, comme j'ai mentionné, là je ne suis pas sûr à quel point c'est un hasard. Ouais. Dans les vieux sets d'Innistrad, on a vu souvent... la mention du chiffre 13, notamment là, la vieille carte de Triskaidekophobia, qui, aussitôt que tu avais 13 vies, c'était quoi? C'était each player with exactly 13 life lose the game. Il y avait beaucoup de mécaniques comme ça. Il y avait notamment aussi là, deux arbres dans les vieux sets, le Tree of Redemption, qui était un 0-13, qui pouvait changer ta vie avec son toughness. Et le Trees of Perdition dans Eldritch Moon, qui était la même chose, 0-13. Tu avais comme une espèce de combo là, entre le Tree of Perdition et le Triskaidekaphobia, qui est la peur du chiffre 13. Bref, on voit un peu là, le, c'est peut-être moi qui vois trop de complots ou d'indices où je devrais pas en voir.
Ben, en même temps.
Selon moi, Renin 7, son fameux arbre sur lequel il est attaché, je fais un call ici à Terrain Basique, c'est le fameux Tree of Perdition, l'arbre 0-13. Puis il va y avoir là, une espèce là, de lore autour de ça. On verra là, quand ils vont révéler les cartes. Là. Mais je le call ici ce soir. C'est à voir. Puis je pense aussi là, que je
crois pas qu'ils vont... Passant, là. Oui. Tu retournes sur Renin 7.
Oui.
Si tu rajoutes ces 7 plus 8, ça fait 15, moins 3, ça fait 12, plus 1, 13.
OK. OK, mais là, tu... Ouais, peut-être.
Mais non.
moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'ils vont imprimer un nouveau Emrakul? Est-ce que nos cartes de Magic ont besoin d'un nouveau Emrakul? Qu'est-ce que t'en penses, Jean?
Je pense que oui. J'ai eu le même feeling que toi là, quand que j'en discutais avec les gens justement du Multizone. Moi, quand sur le poster, juste parce que c'est écrit Moon of Innistrad en dessous, ça m'a allumé tout de suite, comme ben Emrakul va juste sortir de sa prison, puis ça va donner un autre Emrakul à Tron, puis on va essayer que ce soit pas trop jouable en moderne.
Mais là, c'est quoi, ils vont ressortir les Eldrazi? Ça fait pas si longtemps que ça, moi, ça?
Ben,
ça
fait 2016. Il a sorti State of Design avant-hier,
okay.
le designer de Magic. Puis c'est un peu ça qui était un peu le regret du retour dans Zendikar. Ils ont dit que le manque d'Eldrazi dans Zendikar a vraiment manqué, puis c'est ce que les joueurs ont reproché un peu plus au set. Parce que le dernier retour à Zendikar, c'était
juste. Il n'y avait aucun Eldrazi, ouais.
C'était le Battle of Zendikar, puis. C'était la Gatewatch contre les
Eldrazi.
Les Eldrazi, puis là, il n'y avait aucun. Il y a eu une lueur d'espoir sur une des listens où il y a quelqu'un qui invoque comme un genre d'Eldrazi. Puis là, le monde, dans les spoilers, tout le monde a capoté, puis il pensait que... Mais même ça, c'était rendu dans Strixhaven, je pense.
C'est dans Strixhaven. On avait collé qu'il y avait certains symboles sur certaines cartes qui rappelaient Kozilek,
ouais.
Qui est l'autre.
Ouais, fait que là, c'est ça. Il y a eu un peu un manque avec.
Fait que les Eldrazi sont populaires. C'était pas comme trop, genre.
Moi, je pense que oui. Non.
Le monde aime les Eldrazi. C'est juste que Tron prend la plus grosse patate Eldrazi puis le plante dans son deck. Ça, c'est ça.
Mais en même temps, est-ce que les Phérixiens, je veux dire, entre les Eldrazi et les Phérixiens devraient revenir avant les Eldrazi, ou peut-être tout en même temps?
Chronologiquement, oui, les deux ont aucun lien ensemble. Là. Ça a tout été comme tu vas d'un vilain à l'autre. Là. C'est un peu comme Nicole Bolas qui est comme le.
Mais en même temps, on a vu les deux, genre, on a vu des Phérixiens, on a vu Vorklex, puis là, on voit des Eldrazi. Est-ce qu'ils vont faire comme une espèce de. C'est pas le Justice League, là, mais tu sais, comme les méchants, ouais. Là, le Sinister Six. Là.
ça, Jason, c'est le pro là-dedans au niveau du lore, là, mais je trouve que ça s'est perdu un peu. Je pense qu'il aurait pu en parler aussi dans le State of Design d'avant-hier. C'est que le lore, avant, quelqu'un voulait suivre le lore un peu de Magic, pouvait regarder les cartes et comprendre l'histoire.
Ouais.
Ça se perd beaucoup, je trouve. Depuis là, plus gros set là, où comme tu pouvais vivre l'histoire du set à travers, c'était War of the Spark.
War of the Spark.
C'était comme de loin le meilleur set lore. T'sais, tu voyais ces cartes, Liliana.
Tu vivais l'aventure, là, ouais.
Gillian mourir. Tu voyais tout ça à travers les cartes. Puis on s'entend, vous voyez mon amour pour Gillian. c'est vraiment comme.
T'es un Gillian bro, toi?
Ah ouais, mais j'ai mon ami Teferi pas très loin.
Ouais, Teferi,
très
loin, hein?
On vivait ça, mais là, à travers les sets, c'est vraiment des stand-alone, tu sais, c'est comme Strixhaven, ok, ouais. Et puis après, t'as Zendikar, il s'est pas passé grand-chose sur Zendikar. Ouais. Fait que, tu sais, savoir, tu sais, c'est le fun, là, justement, genre Jason qui me dit « Ah ouais, là, c'est vrai, Miracle est rendu là, tout ça. Là, où est vraiment Bolas? Là, Jace, il est rendu où? Il est excellent, là, je sais plus, il est rendu où? » Tu sais, la Gatewatch est un peu partout éparpillée, mais tu le sais plus. À moins de vraiment aller lire les histoires, tu vivre à travers les cartes, c'est là.
J'ai un drôle de feeling qu'ils ont voulu calmer le jeu un peu comme... comme Marvel, là, tu sais, comme de faire, OK, ben, on calme le jeu pendant un an ou deux, puis après ça, on repart sur une nouvelle lancée d'histoire. Parce que c'est clair que, à moins que je me trompe, ça a pas mal été la série de 7 les plus populaires. Je veux dire, la 7 de Ravnica, là.
Les Gatewatch, là, tout l'arc du Gatewatch contre Nicole Bolas. Moi, je pense qu'ils se sont dit, on va pas trop écœurer nos fanbase. Fait qu'on. Ils avaient fait ça hein, à l'époque, dans les années 90, là, avec le Witherlight Saga. Tu sais, chacune des cartes, c'était comme un comic book, puis. À partir de Odyssey puis Onslaught, ils ont délaissé ça un peu. Là, c'était plus les cartes expliquaient c'était quoi le monde, mais il n'y avait pas vraiment de storyline. Ils sont revenus à ça avec le Gatewatch là, dans.
Je pense que ça vraiment
ça, ça balance. Kaladesh, ça balance.
Ouais, à partir de Kaladesh, ils ont vraiment parti l'histoire de Bolas jusqu'à Monkette, puis là, jusqu'à finir à la bataille finale avec War of the Spark. Et après, ça a comme. Droppé, là, c'est un peu à la Marvel, tu sais, ils ont monté
c'est un peu ça.
Puis là, il n'y a plus rien, là. On retourne à l'introduction, fait que ça manque un peu de hype, un peu. Là.
Ben, j'ai l'impression qu'ils ont voulu juste comme, OK, ben, on fait des Monster of the Week, là. Ouais. Mais c'est juste qu'en termes de Magic, on est en, tu sais, c'est des 6 mois, puis des 3 mois, les Monster of the Week, là. Mais ça reste, fait que c'est des Monster of the Season, là. Mais j'ai une drôle d'impression qu'ils droppent des gouttes un peu partout, puis que probablement l'année prochaine, ils vont restarter de quoi, qui va comme tranquillement pas vite aller vers, je sais pas, moi, vous allez l'entendre aujourd'hui, là, on est le 17 août, je cale Phyrexien plus Eldrazi ensemble.
Ensemble? Ouais, moi, je pense que ça va être Phyrexien avant puis Eldrazi ensemble.
Ah ouais?
Okay. Si Miracle revient, tu sais, t'as le potentiel d'avoir quelque chose là aussi.
Oh, cool. Mais, ça, c'était sur Innistrad, l'intro.
Moi, je suis prêt à aller à la carte de la semaine, là.
Oui? Bon, ben c'est bon. On va y aller donc à la carte de la semaine, qui est une présentation de l'Abyss au 4490 rue Jean-Talon-Est à Montréal. Le numéro de téléphone est 514-507-9636. N'oubliez pas que vous pouvez avoir un rabais de 10% sur tous les produits emballés en utilisant le code TB2021, TB en majuscule 2021. Avant la carte de la semaine, on s'en va entendre le beat à Bone. Clairement son meilleur, ce beat-là. Alors, on est de retour à la carte de la semaine qui est une présentation de Jean-François qui nous a choisi une carte de la semaine. Moi, je ne sais pas encore c'est quoi, fait que j'ai peur d'avoir.
Vous non plus. Impressionne-nous.
Oui, j'ai été là, dans la thématique de moderne. Une carte qui passe un peu sous le radar. Je vous passe ici. On Holy Heat. Je vous parle de cette carte-là.
Décris-la en premier, s'il te plaît.
On Holy Heat pour un rouge, instant. Faut que je regarde comme ça. 2 dommages à une target creature planeswalker. Si t'as Delirium, ça fait 6 dommages. Là, tu fais comme. Ok. C'est
ouais, c'est une commune de Modern Horizon 2. Là.
C'est une commune, Modern Horizon, c'est instant, ok, c'est correct. Qui va être printé aussi en historique en passant, une grave erreur selon moi. C'est jamais une carte que tu vas dire, ok, ça a brisé Modern. Mais ça l'a changé énormément Modern. On n'en parle pas assez, on va parler à travers les grosses cartes là, de Modern Horizon tantôt, là. Mais le rouge a obtenu une carte, c'est vraiment, ça tue absolument tout dans le format. Donc, qu'est-ce que ça arrive, c'est que Control a vraiment subi des gros dommages à cause de Heat. Jace est rendu une carte qui est plus jouable à cause de cette carte.
À cause de cette carte-là?
Ah, et c'est genre, tu joues Jace, puis pour un mana, on te l'éclate, même si tu l'as plus. À la limite, papa, nous, là, je dis nous, là, au milieu de ça, on appelle papa Teferi, là, c'est le gros Teferi.
Le Teferi à 5, là.
À 5, ouais, de Dominaria. Et il est encore jouable, parce que tu peux en taper du mana, essayer de le protéger, mais s'il l'a on the spot, c'est terminé. C'est vraiment, vraiment une carte qui est très, très forte en ce moment dans Moderne.
J'imagine que d'avoir quatre cartes de type, c'est pas si compliqué que ça dans Moderne. Dans ton
non, parce que, exact, parce que les decks sont vraiment designés pour faire ça. Bubble, Mishra's Bubble, c'est joué dans à peu près tous les decks. On en parlera de la carte tantôt. Ça, avec Darcy, là, DRC, là, de Dragon Rage Channeler.
Oui, oui, comme une ancienne carte de la semaine, là, oui.
Oui, exact. C'est, tu builds tout seul les cartes, puis fait que vraiment, c'est comme un. Tu sais, à un moment donné, il y avait ce qu'on check. C'est vrai, comme une checklist, savoir si une créature est bonne. Tu dis, est-ce que ça passe le test du pat, du push, puis du bolt? Fait que c'était comme les trois prime removal qui étaient dans le format.
Ouais, juste pour rappeler, là, ça, je pense que c'est la première fois que je l'entends, c'est. Cette
phrase-là. Là.
Tu dis push, le follow push.
Push,
ouais. Casting cost 2 ou moins. Le test du bowl, c'est est-ce qu'elle a plus que 3 de toughness? Puis c'est quoi l'autre? T'as dit c'est le.
Path to exile.
Path to exile, exil, mais ça, dans le fond, c'est faut qu'elle soit exproof ou quelque chose de genre?
Oui.
Il n'y a pas de grande créature qui échappe ça, là?
C'est exact. Mais des fois, tu te dis, ben, ça vaut la peine de se faire path. Puis de toute façon, path to exile en ce moment n'existe pas. Plus en moderne.
Ouais, c'est plus en jeu.
Pathorizer. On va parler justement de la carte qui l'a remplacé aussi. Donc, okay. C'est vraiment ça. Puis là, on a rajouté à cette liste-là aujourd'hui Unholy Heat. Mais c'est 6 dommages. Il n'y a pas grand-chose qui résiste à ça. Fait qu'il y a deux options en ce moment dans le format. On revoit Dead Shadow apparaître. Parce qu'il se fait rarement tuer par ça quand tu la joues. Si elle se fait éclater, mais tu prends ton Lurus, tu le manges, puis tu remets ton Shadow. Puis Murktide Regen, qui est souvent une 8-8 flying pour 2 mana bleu. Fait que mais, c'est vraiment.
Ça, tu main deck ça?
Ça, on a Hori. Ouais, c'est 4, c'est des 4 of dans beaucoup de decks.
4 of?
Oh, et bien ça tue tout. Ça va pas face, une chance.
Et OP, c'est 1 pour 2. Fait que c'est quand même pas si.
Exact. Et, oh, et puis, dans le temps, Amulet Titan a disparu un peu du format pour l'instant. Mais ça tue un titan, ça.
Oui.
Fait que le gars, il fait Titan, puis tu l'éclates pour un mana. T'es comme, bon, OK, c'était gênant, ça. C'est comme. C'est vraiment le.
Son gros 6-6, bye-bye.
Exact. Fait que pour un mana, t'as éclaté une 6 mana cost. Au niveau du mana efficiency, c'est comme de loin très 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 fort. Là. Fait que c'est pas. On parle beaucoup des autres cartes de Modern Horizon, mais ça là, c'est comme la colle qui tient beaucoup de decks ensemble. Là. Fait que c'est ça. Ce sera la carte de la semaine.
Nice! Excellent. Donc, quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire pour la carte de la semaine?
Ben, juste pour dire le lore de cette carte-là, ça se passe sur Innistrad. Dans les sets d'Innistrad, ils ont souvent mis, là, ils ont jamais vraiment donné de nom, mais il y a plusieurs artistes qui l'ont représenté de façon différente. C'est notamment le Pyromancer Alchemist. Le thermo-alchimiste, pardon. C'est un genre d'inventeur, là, un peu comme le docteur Frankenstein. Là. Puis il est tout le temps représenté avec des espèces de bonbonnes dans le dos. Puis il transforme n'importe quoi en produit qu'il lance sur les monstres qu'il veut tuer. Dans ce cas-ci, c'est le feu qui vient des devils. Les devils dans Innistrad, là, c'est les monstres rouges qui sont capables de faire du feu. Tu vois, ça dit dans le flavor text, là, the devil use fire, why should we? Fait que là, tu sais, c'est fait dans le fond un lance-flamme. C'est ça que la carte représente. Mais on le voit aussi là, sur d'autres cartes. Il y a tout le temps une espèce de gadget là, avec des bonbonnes dans le dos puis plein de tuyaux. C'est pas mal cool.
Ah,
espèce de running gag antartiste. Là. Ce personnage-là n'a jamais eu de nom, là, mais il est sur plusieurs cartes.
OK. Nice. Bon, ben, coudonc. On va retourner de l'autre bord de l'émission en allant écouter encore une fois le beat à bone et on est de retour pour la suite. Et nous voilà de retour de l'autre bord du Beat à Bone. Là, on parle de quoi? Modern Horizon 2, c'est pas comme genre 8 épisodes qu'on parle de ça, non?
Ah, écoute, on parle jamais assez de Modern. Okay. Je me suis remis à jouer à Modern récemment parce que Jean-François Régimbal, là, il organise des tournois modernes au magasin Multizone de Gatineau chaque lundi et jeudi. Et c'est très populaire à 6h30. D'ailleurs, Jean-François, je pense que vous avez quand même un gros tournoi qui s'en vient. Là. Explique-nous pourquoi des gens de la région devraient être incités à s'essayer.
Oui, donc nous, là, pour un peu rehausser la scène compétitive, là, qu'est-ce qu'on a? C'est vraiment un tournoi par saison, donc par set, un peu comme là, on est dans la saison D&D. Donc, jusqu'à la fin, mi-septembre, on accumule des points, justement, les lundis et les jeudis. Donc, on fonctionne avec les match points. Donc, une victoire te donne 3 points au classement. C'est moi aussi qui s'occupe de tenir ça à jour. Donc, tu accumules des points pour finir, pour te qualifier pour le tournoi des joueurs à la fin de la saison, qui réunit tous les joueurs qui auront eu 20 points et plus durant la saison. Surtout avec le temps de la COVID, tout ça, c'est plus difficile pour tout le monde. On a baissé un peu le nombre de points nécessaires pour ça. Mais c'est un très gros tournoi. On est déjà notre 6e saison de ça. Donc, il y a eu un temps d'arrêt, évidemment, comme tout le monde. Le Paper Magic a un peu disparu. Là, on le ramène là, pour notre 6e saison. On est vraiment content pour ça. On a un bon price pool avec ça parce qu'avec... le multizone avec nos achats, on a des pourcentages de rabais, puis ces rabais-là, au lieu de les mettre dans leur poche, ils envoient ça dans le pool à la fin de la saison. Fait que ça encourage aussi les gens à acheter des choses comme ça, puis ça fait un très, très beau tournoi. Et dans 2 semaines, justement, là, on relance un de nos plus gros tournois de qualification. Si on gagne le tournoi dans deux semaines, on a notre entrée gratuite à ce tournoi des joueurs-là, mais aussi un bail de première ronde. Donc, c'était quelque chose d'assez intéressant.
Il y a pas mal de monde aussi, là. J'ai remarqué que c'est moins qu'avant la COVID parce qu'il y a encore des gens qui ont des petites réticences, là. Mais j'aime beaucoup que tu aies quand même. Moi, les deux fois que je suis allé, on était plus que. La dernière fois, on était 20, je pense.
Les lundis, ça va bien. On a à peu près ça, 20, 22 joueurs, beaucoup de nouveaux joueurs qui commencent à se pointer. C'est le fun, on encourage ça. C'est vraiment. On a une belle scène au multizone, là. Quelqu'un qui veut vraiment jouer, là. Du bon Magic, là, c'est là que ça se passe, c'est sûr.
Écoute, tu peux te lancer. Calls sur selon toi, tu sais, Modern Horizon 2 a beaucoup bouleversé Modern. Moi qui pensais que je connais bien ça, je suis tout perdu. Là, je me fais sortir des decklists d'en face. Je croyais que mes vieux decks allaient se. J'ai essayé des brews les derniers, là, mais je regarde ce qui se passe autour, là, puis ça a beaucoup changé en. Depuis avant Modern Horizon 2 puis après. Ouais.
Oui, on passera pas à travers tout ça, mais je vais aller dans un peu l'atmosphère, là, évidemment. Là, j'entendais Andy dire check les prix. Oui. Ça, c'est en dollars US en passant.
Ah, en plus.
si on a le temps, ce sera un de nos sujets plus tard aussi. Là, ça commence à ressortir un peu grâce à Modern Horizon 2. Okay. Les decks ne sont plus achetables. On va passer un peu à travers ça. J'ai réécouté notre dernier épisode ensemble là, de Terrain Basique pour aller voir si je m'étais vraiment planté ou j'étais pas si pire. Finalement, j'étais vraiment pas si pire.
Ouais.
Les cartes que j'ai dit qu'elles allaient être bonnes, ils sont très bonnes. Ouais. Petit bémol un peu avec Urza Saga que j'avais dit qui était correct. Je vais maintenir ça à un peu plus que correct. Si on recule un mois dans le temps, cette carte-là, là, tout le monde criait sur les toits. Tout le monde la voulait voir cette carte-là disparaître du format. C'était bannable. C'est-à-dire que c'est vraiment la carte.
Je chialais beaucoup. Là.
Ouais, c'est terminé, let's go, sortez-moi cette carte-là. Il y avait des rumeurs que cette carte-là n'avait même pas été testée, que c'est une carte de dernière minute qui a été rajoutée dans le set, que les pros comme Brad Nielsen, tout ça, n'avaient pas eu le temps de tester.
Qu'est-ce que Andy dit dans ce temps-là? Hein? Ça va?
Ben, ça va tuer Magic, clairement.
Ça va tuer Magic.
Ben, c'est mort, là. C'est agonisant Magic en ce moment.
Oui. Mais le bonheur, le bon côté que Magic en papier n'existe pas totalement encore, c'est que la méta évolue extrêmement rapidement. Sur MTGO, là, sur Magic Online, la méta là, change journée après journée parce que tout le monde s'adapte extrêmement rapidement. Parce que souvent, avec les online, avec les services comme ça, tout le monde a des services de location de cartes. Les gens changent de deck rapidement. C'est pas comme à papier où tu joues les cartes que tu as. Sur online, c'est beaucoup plus facile. Tous les streamers, tous les grands professionnels là, sur Magic Online changent de deck tous les jours. Fait que ça évolue extrêmement rapidement. Donc, on a eu le premier tournoi majeur de Magic en paper aux États-Unis en fin de semaine. Ça a vraiment été rafraîchissant de voir ça là, en coverage. J'ai suivi ça un peu en fin de semaine. C'est vraiment, tu sais, regarder sur Internet du Magic, Arena, tout ça, MTGO, c'est correct, là. J'écoute ça tous les jours, il n'y a pas de problème, là. Mais du paper, là, du tournoi en papier, là, tu
la
vois les
caméra gars, au-dessus de la table.
La caméra au-dessus de la table, les gars jouent les cartes, c'est Magic. Ça, c'était vraiment
vraiment suer, là.
Oh, oui, c'est ça. Puis, tu sais, tu vois l'hésitation, tu vois le pan, tu sais, tu vois le monde qui pense, tu vois les bluffs, tu vois les gens qui tapent du mana, tapent du mana. C'est vraiment ça, Magic, puis c'est vraiment, vraiment le fun à voir.
Ouais, je suis d'accord.
Il y a ces deux Crashing Footfall qui ont fini en finale. Je peux commencer avec ce bloc-là ensemble, OK? Donc, Crashing Footfall puis Living End. Moi, je les mets dans la même catégorie, là. C'est des cascade decks qui jouent plein d'affaires qui est en haut de 2 mana cost et qui vont vraiment se baser sur Violent Outburst puis Shardless Agent qui ont cascade.
Donc, je veux juste un petit rappel comment la cascade fonctionne.
Ouais. Donc, quand Agent ou Outburst va être casté, cascade va. C'est un trigger de casting. C'est un cast trigger. Donc, on casse ça, donc on va cascader. Donc, avant même que cette carte-là va résoudre, on va révéler le top de notre librairie jusqu'à temps qu'on révèle une carte qui est de CMC moindre. Donc, ici, Violent Outburst est 3. Même chose pour Shardless Agent. Donc,
tout ce qui est moins de 3.
Tout ce qui est moins de 3. Donc, si on voyait tout le deck, il n'y a rien qui vaut plus que 3,
ben ouais, c'est ça,
sauf Crashing Footfall.
Et Seagate Restoration.
Seagate Restoration, c'est considéré comme... Ouais, mais c'est pas une LAN. C'est une LAN, mais elle a 4, 5, 6, 7 de mana cost.
Ah, oh, OK, ouais.
Fait que ça flippe pas dans Agent. Donc, il y a vraiment juste une carte qui va être révélée, c'est Crashing Footfall.
Okay.
Tu spends 4, un vert, tu crées 4, Rhinoceros 4-4 Trample.
Ouais, exact. Fait que ça peut être fait aussi en Instant Speed. Fait que ça le fait dans le fin de ton tour à toi. Là, il met 2-4-4, puis là, tu vas te faire frapper par des Rhinoceros. Puis ça joue 4 Force of Negation aussi.
Counterspell.
Pour Counterspell, si on fait Outburst dans ton tour, ils ont Negation Up aussi contre ça. Fait que c'est la même chose avec Crashing Footfall et Living End, c'est la même chose. Sauf que lui, il va cycle plein de patates. Des gros monstres, des 3-4, des Street Raid, des 5-5
XP. Fait que tu bottes ton graveyard avec cycle.
Exact. Et tu vas Outburst dans Living End.
Que tu changes, tu mets ton graveyard sur la table, puis ce qui était sur la table dans le graveyard.
Exact. Tout est gratuit dans ton graveyard, ça va sur ton battlefield. Encore là, quand tu as fait ça instant speed, on te met facilement 20 power sur le board, c'est quand même assez fort.
Fait que là, c'est un deck qu'on voyait beaucoup, je pense, en 2018, je pense. C'est revenu, ça avait disparu, puis là, c'est revenu. Là.
Oui, parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Violent Outburst était là, mais il n'y avait pas vraiment... Shardless Agent a vraiment aidé parce que ça rajoute un autre cascade, une autre chose qui va cascader dans ça.
Cascade à 3. Okay.
Exact. Fury aussi est bon là-dedans. Parce que c'est justement, c'est des cheap, c'est des free answers, c'est des cartes qui sont jouables pour gratuit. Ça va aider beaucoup dans Living End. Living End joue, lui par exemple, Grief, qui est le Evoke Noir, parce que, why not? Je vais tantise pour une carte noire, je vais le mettre dans mon grave, je vais le ramener avec les véganes, je vais tortise. C'est comme plein de choses gratuites. On jasait de ça aussi. Les cartes en ce moment, en moderne, font beaucoup trop pour pas grand chose. C'est des cartes qui sont super haut mana cost, coûtent rien parce que tu peux les cheater in. Puis les cartes qui sont. Et toutes les cartes qui sont bonnes sont soit gratuites, zéro, ou un mana cost, puis peut-être deux. Murktide Regent, c'en est un. Tu dis, ah, ben oui, mais c'est une carte à 8 mana. Ben oui, mais tout le monde la casse pour deux aussi. Là. Fait que c'est ça, moderne. C'est vraiment rendu ça. Bone Crusher Giant, c'est une carte qui. C'est deux mauvaises cartes mises ensemble qui font une super bonne carte. Mm. Même chose pour Brazen Power, deux mauvaises cartes qui mises ensemble. Tu sais, il n'y a personne qui jouerait une 3-1 Flash. Pour 3 mana, qui peut bloquer juste des créatures qui volent. C'est pas bon, ça. Enlève Pelitef sur cette carte-là, c'est pourri. Là. Ouais. Mais là.
Mais les deux ensemble, c'est crissement bon.
C'est très, 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 très fort. Surtout que main deck sur ces decks-là, parce que ça se fait avoir par des sideboard cards assez puissantes. Fait que tu veux toujours avoir ton. Oups, j'enlève ça, puis après, je t'éclate. Fait que c'est pas. Mais c'est des decks qui sont gérables, mais faut vraiment pas que tu les oublies. Parce que si tu les oublies, c'est un peu dans le temps comme je les compare à Modern Horizon, je comparais ça à Dredge.
Dredge ouais.
Est extrêmement fort. Donc quand c'est très 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 fort, Dredge, les sideboard cards augmentent, puis Dredge c'est plus jouable. Ouais. Et là, les bons joueurs de Dredge savent quand ramener ce deck-là. C'est comme, hop, oh, là, je peux le ramener parce que toutes les sideboards ont disparu. Puis là, quand ça revient, faut vraiment que c'est un deck in et out.
Mais là, il me semble que c'est risqué parce que, surtout à cette heure-là, avec les. Tu veux exiler le graveyard là, pour les autres decks aussi. Puis il y a des bonnes cartes là, de graveyard. Là, on pense à Doty qui ouais, sacrifie pour exiler le graveyard ouais, de l'autre. Je veux dire, il me semble que présentement, là, les sideboards sont faits contre ces decks-là, non?
Exact. Mais c'est pour ça que Crashing Footfall est un peu plus joué que l'Eveillant. Ouais. Oui. Les deux sont comparables parce que c'est vraiment le même gameplay, c'est vraiment le même objectif de cascader dans le zéro mana cost, mais ils vont sortir les rhinos, là on va avoir son grave. Donc, lui, il n'a pas vraiment besoin du grave. Sauf que il va tomber au même sideboard card que Living End. Sauf que lui, il en a moins. Ici, tu peux l'avoir avec du Graveyard 8. Ici, ça ne fait pas de différence. Dans Crashing Footfall. Sauf qu'un chalice sur zéro, ça magane les deux decks.
Oui.
Donc, parce que tu peux bien cascader dans ce que tu veux, les deux sur zéro, ça va être countered. Même chose pour Bébé Teferi, donc le Teferi de The War of the Spark, ça détruit ces deux decks-là parce que tu peux pas cascader.
Tu peux pas jouer dans le tour de l'autre,
ouais. Oui, non, mais tu peux pas cascader. Avec Bébé Teferi. Avec Triferi, là. Quand tu cascades, tu vas révéler le top, tu peux pas la jouer parce que tu es en train de jouer un spell en instant speed. Ça fonctionne
ouais,
pas.
Ouais, 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 okay, ouais.
Fait que ça, le spell va rester en exil ou tu dis, ben, je vais juste le remettre en dessous de mon deck.
OK.
Fait que c'est vraiment Crushing Footfall a gagné le tournoi, le papier en général. Mais le tiers zéro, donc le meilleur deck du format en ce moment dans Modern, c'est Hammer Time.
Hammer Time!
Eh oui, avec notre ami Lurus de Dream Den, la créature la plus jouée dans Modern. Donc, si on voit ici, là, donc Top Creature, Lurus, joué dans 23% des decks. Donc, et à une exemplaire chaque, hein? C'est drôle.
Ben ouais,
donc, le compagnon favori de tous, donc Lurus, beaucoup.
Qui se sert de son power de compagnon. C'est rare qu'il y en a beaucoup qui font ça.
Oui, c'est le. À part Yorion, mettons, là, qu'on va voir quelques fois, là, Lurus est de loin la créature. Ben, de loin. Elle était 25% donc, un deck sur quatre. On va dire ça de même, joue le russe. Fait que, ça montre peut-être une petite problématique ici. Il y a des discussions en arrière-plan sur le russe. Est-ce qu'il est vraiment un problème? Est-ce que la carte est trop forte. Certaines ne voient pas l'Urus rester très longtemps en moderne.
Ah ouais.
Donc,
tu penses qu'il va manger le marteau du ban?
Mais c'est parce que c'est pas. Il fait beaucoup pour pas grand chose, encore une fois. Dans certains decks, c'est tout simplement gratuit de le mettre.
Un petit rappel, c'est que tu peux caster tes permanents de casting cost de 2 ou moins du graveyard.
Ouais.
Il veut généralement dire toutes tes cartes.
Hein. Ce deck-là joue, c'est quoi, c'est 24 créatures qui coûtent 2 de moins.
Ouais.
Surtout, tu sais, Ornithopter, là, c'est un Ornithopter, c'est un 0-1.
0 pour
un 0 pour 0 flying. Ouais. Ou le Memnite qui coûte 0 aussi, qui est la même chose, là, un pour 0. Puis ton but, c'est de sortir ta créature le plus rapidement possible pour y crisser dessus.
Le gros marteau.
En cheat, le gros marteau Colossus Hammer.
C'est un deck. Pourquoi il est tiers zéro? C'est qu'il fait beaucoup de choses. Il attaque sur beaucoup, beaucoup de flancs. C'est un deck qui était un peu plus effacé. Modern Horizon 2 a amené Urza Saga pour eux. C'est, d'après moi, le deck qui joue le mieux la saga. On peut parler peut-être d'Amulette aussi, là, mais Titan, c'est pas jouable en ce moment. Fait qu'on peut pas vraiment
comparer ça.
Mais Hammer, c'est vraiment le deck qui joue Urza Saga le mieux.
Fait que ton Urza Saga, tu vas aller chercher le Hammer?
Oui, ben en fait, tu peux aller chercher beaucoup de choses.
Tu vas chercher les enchantements avec le Urza, je ne me rappelle plus.
Non, tu vas vraiment chercher des artefacts. Fait que, mais il y a ces créatures. Ici, il peut aller chercher deux. Il peut aller chercher des créatures. Il peut aller chercher son Hammer. Il peut aller chercher son Shadow Spear s'il a besoin de passer à travers. Là, ici, cette liste-là, je vois pas le. Ok. Je vois pas le Cranial Plating. Il y a des gens qui vont mettre le Cranial Plating aussi.
C'est un autre équipement.
Qui est un autre équipement qui est plus facile à équiper. Si tu fais face à des decks qui sont plus de removal, tu veux dire, ben s'il pète ma créature, ben je vais pouvoir le rééquiper ailleurs. Fait que tu veux vraiment garder une option avec ça. Mais ça, c'est un deck qui tue taux 2. Là. Je peux faire, là, moi, je joue souvent contrôle, je peux faire Flooded Strength Go, puis lui, il a une tape, il met son deuxième land drop, puis je peux mourir. Fait que c'est vraiment absurde. Parce
c'est
que tu peux...
beaucoup absurde.
Oui, tu peux faire... ton premier tour, ça peut être LAN, Springleaf Drum. Tu vas aller chercher un Memnite. Tu vas aller... tu vas taper ton Memnite avec ton drum pour faire un mana. Tu vas mettre Sigurd of Aid. qui permet de mettre des équipements en genre en flash qui s'équipe tout seul. Tu en tapes avec deux mana, tu fais Colossus Hammer deux fois, puis je viens de me prendre 20. 21, en fait.
Ouais,
fait que c'est des choses comme ça. Puis là, tu dis, OK, mais c'est juste un combo de deck, c'est des créatures à 0 puis des 0-2. Ouais, mais ça a Urza Saga qui va faire des patates à 8-8. Ouais. Fait que ça peut grinder très, très longtemps aussi.
Mais là tu disais au début que Urza Saga, je me rappelle, dans la première fois que tu es venu, tu disais Urza Saga, c'est overblown. Mm-hmm. Au début, tu as dit les gens chiolaient contre Urza Saga, mais c'est pas si fort que ça. Puis là, tu es en train de me dire que ça, c'est un deck Tier 0.
Ouais.
Tu sais, le top deck qui run 4 Urza Saga.
Ouais.
C'est vraiment fort, là. Je veux dire, faut pas dire qu'Urza Saga n'est pas une carte vraiment forte, là.
Non,
c'est comme la carte de moderne en ce moment.
Oui, mais qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens ont commencé. Au début, c'est que, tous les decks le jouaient pour aucune raison. Là, maintenant, ça s'est replacé un peu. Il y a pas mal juste ce deck-là qui va le jouer très, très fortement. Elle est excellente en passant.
Ouais.
Mais les gens ont compris comment jouer autour. Comment elle peut être détruite. C'est quoi les limites d'Urza Saga? C'est quoi les sideboard cards pour Urza? Tu sais, des cartes comme Blood Moon, Alpine Moon, qui est un mana aussi. Si je joue Alpine Moon puis je dis Urza Saga, mais toutes tes Urza Saga sur ton board disparaissent. Ils font pas juste devenir des montagnes. Tu les mets dans ton graveyard. Fait que c'est vrai. Je peux te wasteland. Je peux vraiment te détruire. Thailand, fait que les gens ont commencé à comprendre aussi. C'est un enchantement. Ça se détruit par des Enchantment 8. Ça se bounce avec Bébé Teferi. Donc, Bébé Teferi peut minus sur la Urza Saga, ça renvoie Thailand dans tes mains. Fait que c'est. Il y a beaucoup de. C'est très très fort, mais il y a beaucoup aussi d'angles d'attaque envers ce deck-là. Mais c'est vraiment le deck le plus fort.
Et, mais oui, le deck n'est pas brisé à cause d'Urza Sagan.
Non, il n'est pas brisé.
Non, non, c'est ça. Mais si tu regardes, là, c'est ça fait des 5-0, ça nous a mis 3 en 3-1 dans les préliminaires. Ça fait deuxième ici, ça fait cinquième ici. Regardez dans le Super Qualifier, qui est comme le Pro Tour Qualification de MTGO. 5e, 11e, 14e, 21e, 22e, 23e, 24e, 32e. Fait que c'est beaucoup là, du même deck là, dans le top 32. Là. Dans le challenge aussi, 2e, 26-31. 2e encore, 10e.
Oh, c'est le top deck. C'est le top deck en ce moment.
C'est le deck.
Préparez vos sideboards en conséquence.
Exact. Fait que le nouveau deck. Là, ça, on pourrait dire là, la nouvelle saveur du jour, c'est Elemental. Donc, ça l'a apporté. Ça, c'est vraiment un deck qui a apparu avec Modern Horizon. Ça, si on veut parler de Modern Horizon 2, c'est le deck. Ça, c'est-tu le deck à Canister? C'est 8. C'est 8-2. J'aime pas cette version-là. Je vais aller voir la version avec Canister. Ouais. Canister, c'est comme... c'est Peart... Je me souviens jamais de son nom. Là. Les gens qui le suivent un peu plus sur Twitch là, le connaissent par Canister. C'est excellent joueur. A vraiment mis ça en shape. Qu'est-ce que ça fait? Ça joue Kiera. Fait qu'on va s'en reprendre depuis tantôt. Lurus, c'est jouable, mais celle-là, quand tu vois apparaître, ouais. Quand tu la vois apparaître, t'es comme bon, je me prends contre Elemental. Fait que lui, il a rajouté Skelemental aussi. Je suis pas fou là, de Skelemental, mais c'est bon aussi. Basé sur Risen Reef. Donc, ouais, à chaque fois qu'un Elemental rentre en jeu, tu regardes ton top card, tu piges une. Ben, tu piges. Ben, en fait, tu regardes. Si c'est une land, tu la mets en jeu. Sinon, tu piges.
C'est tout en bon.
Ben, c'est très bon.
En soi, c'est bon. Mais qu'est-ce qui est un peu abusé, c'est que tu dis mais les Evoke, tu perds une carte quand tu les joues. Mais non, pas quand tu as Risen Reef. La carte se remplace. Fait que tu vas avoir plein de cartes comme ça qui va. Tu vas down a card, mais tu vas la pogner avec Risen Reef.
Fait que dans le fond, c'est le cycle des Evoke dans Modern Horizon 2 là, que tu peux jouer la carte gratuitement en discartant une carte, c'est ça? Mais en instant au lieu de cette créature.
Exact.
Pour trigger ton Risen Reef.
Exact. Puis sont toutes jouables. J'ai vu des subtilities aussi. Mais là, on voit Endurance. On voit Fury, on voit Solitude. Lui, il ne joue pas Grief, mais j'ai vu des listes avec Subtility aussi. Fait que rajoute ça à Cavern of Soul qui sont toutes d'élémentales.
Fait que ça, ils
peuvent pas être countered. Les Omnath, on sait qu'est-ce que le Omnath a fait sur Arena, entre autres.
Ça, c'est le Magic.
Exact.
Ben, ça l'a achevé. Ben, il a donné un point de vie, là. Il restait un point.
Ouais. C'est vraiment très fort. Mêlé à tout ça avec Ephemerate. Donc, tu peux j'ai vu un streamer justement jouer Fury Tour 1 dans un MT board. Il a fait comme bon, mais je vais pitcher mon Heartbringer. Je vais faire Fury, je vais l'Ephemerate. Puis, go. Là, tu as une 3-3 double strike. Là. Le gars, il n'y a pas de land en jeu. Là.
Non, c'est ça, il n'a pas commencé encore à jouer.
Exact. Fait que c'est vraiment le deck. Ça fait beaucoup de résultats. Est-ce que ça a gagné des gros tournois? À ma connaissance, ici, il y a ça. Ouais, non, ça, c'est pas un gros tournoi. Ça fait des bons résultats. Ça l'a pas nécessairement gagné encore. Mais c'est dans. C'est
on
dans
est en train de travailler
decks.
Dessus. Là,
fait ouais, que... c'est vraiment. Si on veut savoir la saveur du jour, là. C'est
surtout qu'il y a 5 couleurs, fait que tu peux t'amuser, là, t'as de la marge de manœuvre.
Ouais, il est 4, il n'y a pas de noir. Si je regarde la liste de canister, là.
Mais tu peux quand même.
Noir, ouais.
Un moment donné, là, tu peux aller te promener là, si tu veux mettre Grief, justement. Là.
Ouais. Mais c'est ça, les listes qui vont avoir plus qu'Elemental vont jouer le noir.
C'est drôle à quel point il n'y a pas de sort. Tu sais, c'est juste des créatures, là. Des fois, il y a 4 artefacts ou 4 fois un sort, mais.
C'est ça, puis quand je jouais contre ça hier, justement, en me disant, puis c'est bizarre parce que tu fais comme je vais. Tu sais, tu regardes tes Force of Negation qui est rendu même une carte de sideboard. C'est comme Ah, ben non, c'est pas bon, c'est toutes des créatures.
Ben ouais, c'est, ça.
C'est ça qui arrive avec les cartes qui sont comme endurance, des choses comme ça. C'est des cartes qui sont comme sideboard, avec des effets de sideboard, mais sur des cartes main deck que tu peux pas interagir si tu n'interagis pas avec la créature. C'est souvent des ATB, fait que si ça touche le battlefield, même si tu la tues, l'effet est encore là. Je me rappelle d'un match, mon adversaire est à deux. Il y a un gros stack qui se provoque, puis je suis capable de mettre trois snapcasters sur le board, puis je passe le tour. Il est à deux, là. J'ai trois snapcasters qui sont des 2-1. Il me casse Fury, il fait ça le détruit, puis je me fais éclater par une 3-3 double strike. Là. Fait que c'est vraiment assez intense comme deck. Très, très bon deck en ce moment. Il a passé de inexistant au deuxième deck de la méta. Là. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez fort. Là.
Quelqu'un qui se lance dans moderne, Jean-François, tu l'enverrais sur quoi? Là, mettons là, que quelqu'un arrive là, puis bon, moi, je veux jouer dans moderne. Je veux passer dans la cour des grands.
J'ai des millions d'argent.
Non, ouais. mais justement, là, par quoi? Parce que tu ne vas pas dépenser des millions parce que tu as des decks. Tu as beau payer un deck 1500$. Si tu ne l'as jamais joué, ça ne va pas valoir la peine.
Ça. Non, c'est ça.
Mettons le Toyota Corolla du format. Là.
OK. Ça dépend ce que vous voulez. En fait, là, moderne, là, il y a de la place pour beaucoup de choses. C'est ça qui est le fun avec moderne parce que là, vous voyez, je discute de plein de choses puis j'ai parlé de 4 decks, mais la liste est encore très, très longue.
Ouais.
Faut vraiment trouver. Oui, tu as toujours la version budget. C'est toujours savoir qu'est-ce que toi t'aimes jouer.
Ouais.
Et ça part de tout ça. Tu peux gagner avec absolument n'importe quoi. Si t'aimes le deck, puis tu contrôles et tu maîtrises le deck. Fait faut que tu trouves un archetype que t'aimes. Et après, tu vas jouer. Tu sais, pour les gens qui commencent à me connaître, moi, je joue beaucoup Burn et Control. C'est qui des deux decks sont vraiment à l'opposé. Mais on m'a toujours dit, ouais, toi, là, tu es soit très vite ou très slow, mais tu joues Lightning Bolt. Fait que moi, je joue Jeskai Control ou Burn. Fait que il y a tout ça. Fait que tu trouves dans l'archetype que t'aimes, puis tu. Parce que faut que tu t'amuses, là. OK. Faut que tu t'amuses de base. Fait que. Un coup, tu dis, OK, est-ce que tu aimes soit jouer agressif, est-ce que tu aimes contrôle ou tu aimes jouer combo? Après ça, ça va comme éliminer des decks par soi-même. Tu vas pas dire, OK, mais je jouerai pas ça, c'est pas le fou. Si j'aimerais pas ça, j'aimerais pas ça. Parce que, vous l'avez dit, c'est pas cheap. Tu peux pas acheter tous les decks de Modern. Tu peux pas dire, hey, je vais acheter ça pour essayer. Parce que si tu achètes justement, si on va dans des listes de contrôle, c'est complètement absurde. Parce que on parle de cartes. Là, on voit plus. Tu sais, quand Force of Negation était joué, on parle de 90$ US la carte, là. C'est un counter spell, tu gagnes pas de game avec ça, là.
Non.
Comme tu tues pas ton adversaire avec Force of Negation, là. Mais quand tu dépenses 90$, puis t'en faut minimum 3, mais faut que tu penses à ça. Puis comme je disais tantôt, il y a des articles qui sortent là-dessus. C'est rough, là. Tu sais, quand tu payes 1200$ pour un deck.
Qui peut se faire déclasser à la sortie d'un set.
Exact, ça peut
c'est fâchant, ben oui, c'est ça.
Donner, right. Oh, moi, j'avais le Mono Rouge Pro West qui était, je me souviens, là, avant la pandémie, en 2020, c'était super bon là, dans le temps avec les Fateless Looting et les Arclight Phoenix. J'avais investi là-dessus, puis à cette
heure,
je
ne
veux pas gagner de tournoi avec ça.
Puis ça, c'est si ton deck ne fait pas ban. Il y a des decks qui disparaissent au complet. Avant la on recule pas très loin. Là, notre dernier podcast ensemble, Izzet Prowess, le deck que tu parles, était ici.
Oui.
Là j'ai fait more pour voir plus de decks, puis il est rendu ici. Puis il est rendu beaucoup plus loin. Puis pourquoi? Mais c'est ton moins d'entity, ça fait éclater par Heat, la carte de la semaine.
La carte de la semaine, oui.
Fait qu'il y a des choses comme ça. Qui change énormément. Moderne bouge beaucoup. Fait qu'il faut être prêt à ça. Mais il y a des incontournables. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont commencer avec Burn aussi. Parce que c'est des decks qui sont un peu plus abordables. Fait que tu te dis, OK, mais abordable, c'est quand même 560$ US. Il y a des façons de dévier de ça, mais encore là, j'ai vu un streamer tantôt jouer Burn, il joue plus Goblin Guide, puis il joue notre cher ami Ragavan, qui lui est rendu 80$. Là, des comme...
C'est bon, ce 4-là.
Oui, puis regardez son prix online, ça c'est absurde. Si tu veux jouer ça, si tu veux jouer ça sur MTGO, c'est 100$ la carte électronique. Là.
Ben oui, c'est ça, ouais. Tu l'as même pas dans tes mains.
Absurde. Non, c'est absurde, c'est 400$. Là. Il y a beaucoup de decks online que je joue pas à cause de ça. Là. Ouais. C'est
ben écoute, t'as pas parlé de mon plan au début de l'été, là? Pis ça, c'est une bonne anecdote sur ce qu'on parle. Je m'en allais pour faire le... comment elle s'appelle, là? Le Dragon Rage Channeler.
Ouais.
Puis ça, pour jouer le Dragon Rage Channeler, ça te prend les Mishra Bubble.
Ouais.
Que j'ai déjà eu dans le temps, mais j'avais vendu. Puis là, à cette heure, le prix est rendu ridicule, là. C'est une carte que j'ai vendue parce que je la jouais plus. Puis là, j'étais comme, je vais m'en racheter 4. Puis parce que j'avais déjà les autres cartes de ce deck-là, tu sais. Je les avais déjà, je me disais, ça va pas me coûter cher faire ce deck-là, mais Mishra Bubble tue mon budget, fait que là, je suis comme, bah, ben, je vais laisser faire pour l'instant.
Tu dis, OK, 16$, mais encore là, c'est même pas.
C'est parce qu'elle sert à rien d'autre, puis t'es pas sûr que ça va être encore utile. Parce que cette carte-là ne fait rien. Mishra Bubble, c'est un artefact qui coûte 0. Tu la sacrifies, puis tu regardes le top de la carte de l'autre. C'est le summum de la carte qui fait rien. Puis là, tu la remplaces en pigeant. La seule raison pour que tu joues Mishra Bubble, c'est pour activer le délirium des autres cartes et gosser un peu sur d'autres affaires. Là. Mais c'est le summum d'une affaire qui coûte cher, puis qui ne sert à rien. J'adore ça, c'est Mishra Bubble. C'est un colis. Ouais.
C'est vraiment drôle. Ça. Puis c'est vrai, là, c'est une carte qui fait absolument rien, mais tout en même temps. Ouais. Si on parle, puis encore là, c'est une carte aussi qui vaut 40$ online, c'est parce qu'il y a énormément de demandes. C'est une carte qui fait rien, mais qui est en ce moment dans les discussions pour se faire bannir. Et parce qu'elle se fait, elle fait trop pour pas grand-chose. Parce que tu te dis, quelqu'un qui lit cette carte-là, il fait comme, ben, ça fait rien. C'est zéro mana.
Ça fait littéralement rien.
Tu regardes le top de la librairie, le tien ou l'autre, puis après tu piges. Ça, c'est si tu n'oublies pas de piger ta carte.
Ouais, c'est ça.
Ouais, parce que c'est le next upkeep.
Exact. Puis c'est sûrement un des triggers les plus oubliés dans Magic.
C'est pour ça qu'il faut que tu mets un D sur ta librairie pour ne pas l'oublier. Ouais. Petit truc pour tout le monde.
Exact. Puis, ouais. Mais là, quand tu me parles de ces cartes-là, c'est parce que là, après, Dragon Rage Channeler va trigger avec Bubble. Fait que tu vas faire Bubble, trigger Channeler, tu regardes le top de ta librairie tout de suite, tu check, OK, j'avais-tu, donc ben, je vais mettre ça dans Grave. OK, ben après, je peux caster quelque chose ou fetcher, aller voir. Fait que là, en ce moment, puis ça, c'est si ça te donne pas un Prowess Trigger avec tes créatures.
Parce Monastery Swift Spear.
Hier, je jouais justement encore. Mon adversaire a un Swift Spear et deux Soul Scar Mage. Il commence son tour avec Mishra's Bubble. Je suis comme, est-ce que ça va faire 3 dommages de plus pour 0 mana, right? Ouais, c'est ce que je comprends. Fait qu'il y a beaucoup, puis ça, on peut le mixer aussi avec Lurus. Lurus, je casse Lurus, je pige une carte parce que Bubble sort de mon grave pour 0. Fait que là, c'est. Il y a plein de problématiques en ce moment avec les free spells. Et je rappelle ce que j'ai dit. Pour jouer en moderne, il faut que ce soit un mana, zéro mana, des free spells ou des cartes beaucoup trop chères que tu ne payes pas au mana cost qui est écrit dans le coin de la carte.
Non, c'est ça. C'est que tu trouves une manière de la mettre en jeu sans payer.
Exact. Ou tu joues trompe et tu joues des grosses patates parce que tu as 3 lands qui fait 7 mana.
Urza fait Tower, Urza Power Plant. C'est un bon deck de débutant, Tron, justement. Là, parce que Tron, c'est probablement un des plus vieux decks en moderne. Corrige-moi, je me trompe. Là. Il est tout le temps là.
Qui stick là, de mémoire, je te dirais, là, depuis que je joue compétitivement, pas très très longtemps, on va dire, à partir de Kaladesh. C'est un des decks qui, justement, reste dans la méta.
Moi, j'ai recommencé en 2014, puis on voyait des Trons.
Ouais.
Ouais. Le petit rappel pour Andy, là, c'est Urza Mine, Urza Power Plant,
oh, oui,
Urza
Power. Oui,
quand t'as les trois ensemble, ça te fait 7 mana colorless, puis là, tu casses des grosses patates, des Eldrazi, des affaires de même.
Il y a eu des choses, qui sont apparues dans le deck qui ont été bannies, mais c'est pas nécessaire. Tu sais, le gros, tu sais, ça a survécu le ban de Latisse avec Karn the Great Creator. On en parlait tout à l'heure aussi. Latisse, mais Cassine Latisse, c'est correct pour être en ban. Arrête, là. Et le deck de Tron est là, il n'a pas bougé depuis un certain moment.
C'est le grand-père du format. Là.
Ouais, tu sais, ça allait jouer Once Upon a Time aussi. Mais tu sais, c'est des cartes qui ont apparu et se sont fait bannir tout de suite. Mais à part ça, tu sais, si on regarde des cartes, là, c'est rien de très récent. Là. Toutes des cartes, non, là. Tu sais, t'as Blast Zone là, de War of the Spark. Il y avait Maya, va être joué. Ça, c'est une petite tech que Modern Horizon a apporté pour Tron et E-Tron. Eldrazi Tron. Green Tron va jouer Eva Maya. Puis Eldrazi Tron va jouer Urbog. Est-ce que vous savez pourquoi?
Non.
Je sais même pas de quoi qu'on parle, non, c'est pas.
À cause de ça.
Whenever a player casts a spell, if no color mana was spent to cast, counter that spell. Ok, fait que vu que toi, tu joues des land colorless, t'es le seul qui peut caster quelque chose.
Fait que non, mais c'est
parce que. Parce que là toutes ces cartes sont devenues des forêts ou des swamps.
Exact, mais mettons Eldrazi Tron puis Green Tron. Toutes ces colorless spells ne pouvaient plus être jouables. Fait que là, en mettant des langues qui
ont des
cartes de couleur, ça veut dire qu'il va juste taper un vert, puis il va mettre le vert dans son turn.
Le vert est là pour empêcher le Void Mirror.
Exact. Fait que c'est comme une contre-attaque de monde. Le monde, on fait comme on va jouer Void
Mirror. C'est cool, c'est un bon. C'est un counter sideboard, là, j'aime bien ça.
Exact. Puis ils mettent main deck. Beaucoup de choses qui font comme ça. Des fois, il y a des interactions bizarres parce que tu dis « Ok, mais je vais jouer Void Mirror puis Blood Moon contre
Tron. »
Je l'ai vu le live. Le gars, il joue Void Mirror puis là, il a sa Blood Moon dans ses mains puis il fait comme « Bon, mais I guess que c'est un peu awkward parce que là, tu lui donnes son rouge. » Fait que là, toutes ses lames deviennent rouges. Fait que là, il n'y a plus rien qui est counter par Void Mirror. Parce que là, tu lui donnes sa couleur. Fait qu'il y a comme plein, il y a plein de choses comme ça qui est quand même assez particulier.
Cool. Bon, je pense que c'est bientôt le temps de mettre fin à cette conversation palpitante.
On tire la blague.
Oui. ben merci, José. Je pense qu'on l'a deviné, je joue pas mode.
c'est infini. Ça, c'est,
oh, oui, clairement.
Les decks, quand on parle de decks comme ça, là, on parle de tiers zéro. Là, on parle de 6% de la méta.
En plus, c'est ça qui est fascinant. C'est que c'est pas.
C'est pour ça que je dis, vous voulez commencer moderne, tu peux prendre le deck que tu veux. C'est tellement, tellement large que tu peux gagner, t'amuser avec qu'est-ce que tu veux. C'est vraiment le fun pour ça.
En tout cas, moi, je joue moderne, puis j'ai aimé notre conversation. Jean-François, on va te réinviter
pour
voir à quel point Innistrad a changé moderne là, cet automne.
Puis c'est surtout important d'inviter le plus de gens possible selon les différents types. Là, on ne joue pas plus Commander. Là, fait que c'est quand même important de venir reacher tous ces potentiels listeners. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup, Jason. Merci beaucoup, les gens à la maison, à l'écoute. Et contrairement à Tommy, merci beaucoup à l'Abyss aussi, qui est notre magasin affilié. Merci à Bond pour sa musique. Merci à Shadowrun et le Super NES pour faire des jeux. Et à l'inverse de Tommy, je vais vous dire que Magic est mort. C'est officiel. Vous l'avez entendu ici.
La famille H2O Web Media.